chapitre 10e, vers Pondichéry. En quittant le pays de Madura pour remonter vers Pondichéry, vers le nord, on s'éloigne par degrés de l'humide région des Grandes Palmes. Leurs groupements ombreux s'espacent de plus en plus, c'est dans le sol à des herbages, des plantations, des rizières. Et peu à peu l'air devient moins lourd, l'eau se fait rare dans les campagnes, la terre semble altérée. Cependant, la vie humaine, plus clairsemée peut-être que dans notre Europe, garde ses aspects de tranquillité pastorale. Des troupeaux de chèvres, des troupeaux de petits bœufs à bosse, sous la conduite de bergers nus, de bergères en panne écarlate, paissent l'herbe déjà jaunie, mais encore suffisante. Chaque village, aux maisonnettes de chaume et de terre battue, a son temple brahmanique, dont les idoles érigées en pyramide, dont les monstres perchés sur les murs, s'effritent au terrible soleil, dans le rougeoiement de la poussière. De loin en loin, sont des bouquets d'arbres énormes, à l'ombre desquels il y a toujours des dieux assis sur des trônes, et gardés par des chevaux en pierre ou des bâches en pierre, qui depuis des siècles leur font face et les contemplent. La poussière rouge, elle devient d'une heure à l'autre plus tyrannique. De plus en plus, c'est la sécheresse. On s'enfonce dans des régions qui souffrent, d'une soif sans doute anormale. Et le ciel est au beau fixe, limpide et bleu comme pour jamais. Les cultivateurs de tous les côtés travaillent à l'irrigation par d'ingénieux procédés du vieux temps. Dans tous les ruisseaux qui bordent les rizières, on voit des hommes descendus jusqu'à mi-jambe dans l'eau précieuse et deux par deux, tenant au bout d'une corde une outre en peau de mouton, ils la balancent d'un mouvement automatique, rythmé par une mélopée qu'ils chantent et tour à tour la remplissent, ou bien en déversent le contenu dans une rigole plus élevée qui va se perdre parmi les sillons du riz, encore à peu près vivants et frais. Pour les puits, toujours placés sous des arbres, c'est une autre chanson, une autre manière. Le seau s'accroche au bout d'une très longue perche, qui est posée en balancier à la tête d'un mât et sur laquelle deux hommes debout se promènent, avec de gracieuses agilités de gymnaste, en se tenant des mains aux branches voisines. Trois pas dans un sens, et la perche vers le puits s'abaisse, et le seau plonge. Trois pas à rebours, et la perche se relève, et le seau remonte, ainsi de suite, du matin au soir, sans cesser de chanter. La sécheresse, à mesure que l'on va, menace de devenir angoissante. On rencontre bientôt les premiers arbres morts, brûlés comme par un incendie, les feuilles roulées en papillotes, sous une couche de cette poussière rouge, qui dans le sud ne teignait que les monuments, mais qui par ici se met à ensanglanter même les plantes. Et combien, devant cet assoiffement de la terre et sous ce ciel sans pluie, on juge l'impuissance du petit travail humain, des petits seaux d'eau remontés un à un, du fond des sources de plus en plus basses et taries. On commence à concevoir la réalité et à pressentir l'approche de l'affreuse famine, qui, avant l'arrivée aux Indes, vous semblait un fléau préhistorique et qui n'a vraiment plus d'excuses devant l'humanité, à notre époque où les paquebots, les chemins de fer seraient là pour apporter la nourriture à ceux qui meurent de faim.